un reportage qui a lieu cette semaine viennent découvrir une église évangélique, eh ben, on est très heureux de vous accueillir. Est-ce qu'on peut dire la bienvenue? Ils se reconnaîtront si jamais ils sont là. Hein, notre Dieu est clair, il est le Dieu de lumière et on va le proclamer maintenant. Ensemble.
Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché il l'a enterré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'étais de la croix, hey, où mon sauveur s'est offert pour moi.
En lui mes craintes,
en lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire?
Ensemble.
Je n'ai de l'ombre à la lumière. Hey, tout en moi veut t'adorer.
C'est peut-être pas ce que ta semaine te dit, mais proclame-le.
Tout en moi veut t'adorer.
Par la foi, un peuple de foi.
Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera ma force.
Tout en moi veut t'adorer.
C'est ma prière, Seigneur.
Tout en moi veut t'adorer.
Vous savez d'où vient la force de la louange d'un chrétien? Il est enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Qui suis-je pour que le roi des cieux Proclamons-le.
Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé.
Jésus vous a sauvé.
Jésus m'a sauvé. Il m'a je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais, oui je sais. Je suis choisi et affranchi. En toi
je sais,
oh je sais. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à
revenons au cœur de la louange ce matin en proclamant ce que la Bible dit de nous. Je suis
choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite du Père, Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement.
Amen. La mission d'adoration de l'Église, c'est de le prier en chantant, en silence, avec nos voix, nos cœurs, nos corps, nos vies. Mais surtout de proclamer ces choses en ayant comme fondation ce que dit la Bible. Et toute adoration, toute louange, doit nous ramener à un seul endroit. Et si on ne vient pas à cet endroit, on a perdu de vue qu'est-ce que c'est que d'être chrétien. Et cet endroit, les amis, c'est la croix. Et c'est ce qu'on va prier en chantant maintenant.
Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire. Par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Cette
croix me sera toujours chère. Elle est gloire. Victoire pour moi. Et par elle, en la maison du la couronne est offerte à ma
Seigneur.
te croire me sera toujours cher. La couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Est-ce qu'on peut prendre ensemble un temps de silence intérieur pour se souvenir dans la louange, dans l'adoration, ce que l'œuvre de la croix dans laquelle vous avez mis votre confiance, votre foi, ce que l'a procuré en vous. Pour certains, l'effet de la croix, ça a été une délivrance. Ça a été mon cas. Délivrance de la drogue, à un moment où j'avais tout essayé. Pour vous, c'est peut-être la délivrance face à un futur et une éternité incertaine. Et quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », quand Jésus s'est révélé à vous pour dire « Je suis l'alpha et l'oméga, je t'emmène avec moi dans la vie éternelle », la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est descendue dans vos cœurs. D'autres, des situations tout à fait pratiques, où à un moment donné, vous cherchiez une place de parking parce qu'il fallait faire les papiers. Et vous avez dit « Jésus, toi qui es mort à la croix pour moi, j'ai besoin de toi ». Et à ce moment-là, une petite voiture est sortie et vous êtes rentré dans la place de parking. Prenons un temps juste intérieur maintenant pour se souvenir de l'œuvre concrète de la foi en nous. Il sera demandé raison de notre foi, Église. Mais nous, nous avons cru et nous avons connu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenons juste un temps de méditation intérieure et revenons à la croix et à sa production sur nos vies. Jésus nous a laissé cette promesse alors qu'on est arrivé au pied de la croix, qui nous a dit à quel point on avait besoin d'être changé, transformé, ce qu'on appelle nous chrétiens le salut, la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés, de tout ce qui nous empêche d'être en relation avec lui. Jésus n'est pas venu dire « Hey, mon ami, bienvenue dans le monde des bisounours et ta vie maintenant, il n'y aura plus aucun problème. » Jésus a eu le courage de le dire à ses disciples et à nous « Prenez courage. » Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il savait que nos vies allaient être parsemées de joie, de peine, qu'il a dit ceci. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ensemble qu'on veut prier ce chant à Dieu. Il est avec nous, concrètement, dans le feu. Quand mon cœur traverse le feu, une
notre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était tout. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à l'époque d'un souffle mort à ma place. Oui, il est avec. Ma tête a quitté, oui, à toujours. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de me tromper entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et sa puissance vide.
Ensemble à le proclamer.
Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus.
Amen.
Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul.
Je sais que je ne serai jamais seul.
Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'être, car je sais tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle crie devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que lui devant lui. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Moi dans le feu. réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Voilà, on veut écouter aussi ce que Dieu est capable de mettre sur le cœur de frères et sœurs qui marchent avec Jésus. On a un frère qui nous vient de Haguenau et il a reçu quelque chose dans son cœur. On veut juste examiner et pouvoir se mettre à l'écoute aussi peut-être de quelque chose où Dieu veut nous interpeller ce matin.
Jésus-Christ veut parler ce matin beaucoup au milieu de nous. Et il vous dit, vous regardez et vous avez de belles images sur vos ordinateurs, sur vos tablettes. Ça attire l'œil. Mais moi, je vois ce qu'il y a derrière ces belles images. Derrière ces belles images, il y a la noirceur. Il y a la pornographie, les sites de rencontres. Et il y a surtout cette quête, cette recherche de savoir quel jour Jésus revient. Alors il y en a qui vont sur des sites, ah, tel prédicateur dit c'est tel mois, un autre dit c'est tel jour, un autre dit à base du calendrier hébraïque c'est tel jour. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis ce matin, j'assimile tout ça à une consultation chez la voyante, parce que vous voulez connaître l'avenir. Et le seul avenir, c'est moi. C'est moi qui vous tiens dans ta main. Alors, aujourd'hui, cessez, arrêtez ces choses. Soyez dans l'humilité, dans la repentance profonde dans vos vies. C'est à cette seule condition que je vous emmènerai le jour où j'enlève mon épouse. Sinon, vous resterez. Alors changez d'attitude, transformez vos vies à la base de ma parole, dit Jésus ce matin. Amen.
Merci Seigneur, parce qu'on a accès à ta grâce encore ce matin, Père. Et c'est vrai, parfois tu peux nous interpeller, mais toujours en dessinant une porte d'espoir. Et cet espoir, il est en toi seul, comme tu nous l'as rappelé ce matin. C'est vers toi que nous voulons tourner vers regard. On ne veut pas placer notre confiance dans autre chose que ta personne, Seigneur Jésus. Et nous savons que ton cœur est large pour accueillir toutes celles et ceux qui s'approchent de toi ce matin, Père. Alors à toi la louange et la gloire, Jésus. Amen.
Amen. On va prendre juste un temps de recueillement, de prière pour discerner ce que Dieu veut dire à nos cœurs. Je pense que c'est important et on pense que c'est important de juste temporiser les choses et laisser l'Esprit de Dieu nous emmener là où on en est dans notre chemin. Seigneur, merci pour ces temps ensemble, ces temps où tu peux venir, là où nous en sommes dans notre parcours de vie, parler à nos cœurs, nous encourager, nous rappeler que tu reviens bientôt et juste nous rappeler qu'on doit regarder à toi premièrement, Seigneur Jésus. C'est notre cœur, c'est notre foi, c'est ce qu'on veut continuer d'apprendre encore et encore, rejetant ce qui est en arrière. Je me tourne et je cours vers le trône de la grâce, vers Jésus-Christ. Merci de nous aider spirituellement à faire toutes ces démarches-là, à faire tout ce chemin avec toi. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle tout au long du chemin, tout au long de la course, tout au long du combat. Alors à toi toute la gloire Seigneur. Et on peut peut-être avec ce temps se souvenir que Jésus est victorieux. Et comme on peut si bien le faire, on peut acclamer ce roi qui est victorieux, ce Seigneur des Seigneurs. Alors, on souhaite une bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, celles et ceux qui vivaient communauté avec nous, église, ecclésia, avec nous, à l'église de l'Épi. On est très heureux de se rassembler ensemble. Vous, peut-être, qui êtes invités ou êtes venus suite peut-être à différentes circonstances qui se sont passées dans cette semaine, vous nous regardez peut-être en ligne et vous dites « Ah, ça fait longtemps que j'entendais parler de cette église évangélique à la Méno, et puis je vais aller voir sur Internet ». Je vais essayer de visionner un petit peu. Ben, nous, on est très heureux de vous accueillir, très heureux d'être ensemble ce matin et de vivre ces temps de célébration. Je voudrais vous parler un petit peu de notre vie d'église ce matin et quelques informations très importantes parce qu'il y a des choses qui arrivent très rapidement maintenant. On vous en a parlé plusieurs fois. On a, dans notre communauté WhatsApp, pas mal fait d'annonces, etc. Donc, on vous le redit aussi aujourd'hui. Nous avons, à notre habitude, chaque année, un temps de rencontre inter-église avec toutes les églises évangéliques de Strasbourg, Eurométropole. Et cette année, avec un mouvement national d'église, il y a des célébrations en commun un peu partout pendant le week-end du 4 et du 5 octobre. Et nous, église évangélique de Strasbourg, on va se réunir le samedi 4 octobre. Donc, au palais de la musique et des congrès pour un temps vraiment d'unité, un temps où on va pouvoir aussi célébrer Dieu ensemble. Quelques infos importantes, hein. La célébration, ça démarre à 17h, d'accord ? Les stands sont accessibles, il y a plein de stands, il y a plus des dizaines de stands, c'est accessible dès 14h, mais la célébration, elle, en commun, le culte en commun démarrera à 17h et ça va se prolonger avec plusieurs choses. Il y aura des food trucks, donc pour pouvoir se nourrir entre les différentes sessions. Il y aura une soirée de louanges, de témoignages aussi, donc de 17h jusqu'à 22h30, il y aura des temps forts qui seront ponctués ici et là. Il faut pouvoir s'inscrire, se faire connaître, de préférence en ligne, et on nous a aussi fait parvenir le fait par l'équipe organisatrice qu'il y aura des possibilités de s'inscrire sur place, mais pour une organisation de centaines et de centaines de personnes. Nous, on en a l'habitude, c'est pour ça qu'on s'organise des fois, mais c'est bien si vous pouvez aller en ligne. Vous avez le format papier qui vous permet aussi à l'espace vie d'église. Tout ce que je vais vous dire ce matin est au format papier, à l'espace vie d'église. Pour celles et ceux qui ne sont pas écran, pas QR code, tout est en papier. Et on a même des tablettes où on peut vous aider, vous qui n'êtes pas forcément écran, à vous inscrire au vote. Il y a des facilitateurs. Donc, je remercie toute l'équipe d'accueil. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Donc, on se donne rendez-vous le samedi 4 octobre pour ce temps fort. On a aussi pour nous les portes ouvertes de l'Épi. C'est un moment particulier. Nous, l'Église, on ouvre nos portes, on ouvre nos cœurs et on se présente. Qui on est, il y aura des gens qui font vivre l'Église de par ce qu'ils ont reçu dans leur cœur, des services ou autres. Elles donnent du sens dans le service d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Les portes ouvertes de l'Église de l'Épi, c'est le dimanche 12 octobre. On aura une célébration de la louange, un message édifiant. Et on aura aussi plein de services où vous pourrez découvrir comment des disciples font des disciples, comment des disciples de Jésus partagent leur cœur, leur foi, au travers de la dynamique de leur Église locale, de la communauté. Pour vous qui démarrez cette année de manière professionnelle et avez besoin de donner du sens à votre travail, on a aussi un parcours ici à l'Épi pour vous, un parcours qui est unique. Et l'idée, c'est de transformer votre travail en un ministère vivant qui donne du sens. C'est des groupes de 6-8 personnes pour favoriser évidemment les échanges. C'est 12 séances dans l'année d'1h30. Et à partir de là, vous voyez en visio, tout au long de l'année pour pouvoir parler travail et le sens que l'Évangile lui donne. Il y a déjà des inscrits. Inscrivez-vous encore une fois. Vous avez le format papier. Vous pouvez vous inscrire par QR code. Vous avez le format papier. Où ça? Ah, vous n'êtes pas avec moi là. Je vous ai eu, hein. Où est-ce qu'on peut trouver le format papier? À l'espace vie d'église. Vous sortez de cette salle, tout de suite à droite, vous avez une équipe qui vous attend. Ensuite, on a aussi un week-end d'intégration, de rentrée pour les ados, papa, maman, cette information est pour vous parce qu'il faut inscrire vos enfants, s'organiser, il y a des frais qui sont engagés. Encore une fois, pareil, vous pouvez vous inscrire via une plateforme Eloasso par QR code ou alors vous pouvez vous rendre à l'espace vie d'église, vous faire connaître et on vous mettra en relation avec toute une équipe qui va vous aider à inscrire vos ados. Les informations circulent dans le groupe des ados, dans le groupe des parents. Donc inscrivez-vous rapidement pour qu'on puisse bien s'organiser. Enfin, on a un temps fort aussi, l'Épi Collecte. L'église de l'Épi ne fait pas que chanter, ne fait pas que dire la Bible. On veut incarner, on veut vivre la Bible. Comment ça se passe? Ben, aimer Dieu, aimer son prochain, on essaie d'être le plus concret possible. On travaille en partenariat avec une association culturelle. L'association culturelle de l'église s'appelle Enjeu. Et Enjeu distribue à plus de 200 personnes, dont 80% ne sont pas chrétiens ou ne fréquentent pas notre église. C'est vraiment un service au prochain. sans distinction, sans rien, ou qu'on veut vraiment les bénir, et on veut se mobiliser en église, pour ça que c'est l'église qui l'organise, pour pouvoir récolter, collecter des denrées. Vous avez toutes les informations sur un flyer, quelle denrée, quelle date de collecte, etc. La prochaine a lieu le 12 octobre. On compte sur chacune et chacun pour pouvoir peut-être dans vos courses développer une mentalité de solidarité, de dire je prends peut-être une conserve en plus ou autre ou quoi. Donc on s'organise et cette collecte, c'est les bénévoles d'Enjeu qui viennent les récupérer, qui viennent fournir les colis alimentaires pour que celles et ceux qui passent par une période difficile de leur vie puissent avoir des colis de qualité. Et c'est une manière aussi de dire aux gens, on vous aime, Jésus vous aime. Voilà, tout simplement. J'ai invité Raymond Pierre à venir maintenant pour démarrer avec nous une saison de série qui, je crois, va édifier notre foi. On va prier pour lui. Seigneur, merci pour ces temps de louange, d'adoration, de proclamation. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. On veut, Seigneur, avoir aussi ce temps précieux à méditer, entendre, laisser la parole, la Bible, venir travailler nos cœurs, nous faire grandir dans le discernement, nous faire grandir en maturité spirituelle. Merci de bénir Raymond Pierre, de le fortifier ce matin, et qu'au travers de lui, Seigneur, puisse être comme un facilitateur pour qu'on aime ta parole, qu'on vive ta parole, et qu'on voit les fruits de ta parole. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.
Amen. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien dans cette fin de mois de septembre? Je suis très heureux de démarrer avec vous notre nouvelle série d'automne qui s'appelle « De l'esquisse à la réalité ». De l'esquisse à la réalité, ça va être une étude sur toute l'épître aux Hébreux. Et le titre du message de ce matin, c'est « Jésus, l'ultime révélation ». Alors si je suis heureux de vous présenter cette série, il y a un autre sentiment qui est là en moi ce matin. C'est un sentiment d'urgence et de nécessité pour l'Église. Alors cette lettre de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas exactement qui est l'auteur. On sait qu'elle a été envoyée à des chrétiens, soit d'origine juive, soit qui maîtrisaient l'Ancien Testament, mais qui étaient en train de faire face à la pression. À la pression risquant pour eux de se laisser piéger et retourner à leurs anciens préceptes judaïques pour sauver la face, pour être sauvés. Ces derniers étaient sur le point de tout abandonner, de tout lâcher et de tomber dans l'apostasie, ce qu'on appelle le rejet de la foi chrétienne, pour revenir au judaïsme. Alors vous savez, on réagit tous différemment à la pression. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une fâcheuse tendance, dès que les situations se gâtent, à dire « purée, qu'est-ce que j'étais bien dans mon ancien métier ». Ça m'arrive souvent. Et je pense que ça va être le combat de ma vie. Mais à chaque fois, Dieu est là pour m'encourager à ne rien lâcher. À chaque fois, Dieu est là pour m'encourager à ne rien lâcher. Alors, je ne sais pas pour vous, mais la saison qu'on est en train de vivre en ce moment, en tant que disciple de Jésus, elle est particulière. On l'a vu tout à l'heure dans le temps de prière pour Madagascar, mais notre monde et notre société n'ont jamais été autant polarisés, séparés, même parfois cristallisés. Chacun campe dans ses positions. Les gens ne savent plus s'écouter. La parole et la pensée de l'autre, elle va systématiquement être dénaturée, dénigrée, voire même diabolisée. La haine et la violence sont en train de monter partout autour de nous, voire même contre la forme de christianisme que nous prônons et que nous désirons vivre. C'est l'église MLK qui en a fait les frais cette semaine. Victime d'un reportage à charge, victime d'un reportage plein d'approximations. Et pourtant, le reportage pointer quand même certaines dérives qui peuvent prendre place dans une certaine frange dans nos milieux évangéliques. Mais ma question ce matin est la suivante. Quelle posture devons-nous prendre? Quelle posture devons-nous prendre? Quel sentiment nous habite? Quelle réaction avoir face à la pression qui se fait sentir? Je crois ce matin que l'Épître aux Hébreux, la lettre destinée aux Hébreux, elle a une portée prophétique pour notre temps. Pour rappel, le prophétique, c'est pas tant une prédiction du futur qu'une prédication d'une parole de Dieu pour le temps présent, pour savoir agir et réagir face aux circonstances qui s'abattent autour de nous. Alors on débute ce matin, aujourd'hui, avec l'ultime révélation qui se trouve en Jésus. On va voir combien nous sommes invités à ne pas perdre de vue, à ne pas négliger Jésus, à ne pas négliger son message, à ne pas négliger ce qu'il incarnait, à ne pas négliger ses valeurs, les valeurs de l'évangile, pour faire face à ce qui nous entoure, au risque de dériver et être à côté du plan de Dieu pour nos vies. Vous êtes avec moi ce matin ? Cette série, elle n'aura pas pour but de vous caresser dans le sens du poil, ni moi non plus. Elle n'est pas là pour satisfaire mes émotions, mais elle va être là pour nourrir une réflexion, pour asseoir nos positions afin d'avancer dans la bonne direction. Tout au long du livre de l'Épître aux Hébreux, l'auteur va encourager les disciples à regarder à la suprématie de Jésus sur les anges, dans les premiers chapitres, sur la loi, sur Moïse, sur l'ancienne alliance, et ce, afin que notre confiance et notre foi en Dieu soient consolidées pour pouvoir continuer d'avancer. Et on débute la lecture ce matin, Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Mon premier point ce matin, c'est Jésus est le dernier mot de Dieu. Jésus est le dernier mot de Dieu. Tout au long de ce livre, l'auteur, on l'a dit, va établir des contrastes entre soit Jésus et les anges, soit Jésus et Moïse, soit Jésus et la loi, soit l'ancienne et la nouvelle alliance. Tout ça pour consolider, asseoir notre confiance et notre foi alors que les disciples étaient en train de faire face à l'opposition et que peut-être nous aussi on est en train de passer par là. En avertissant aussi des dangers de retourner en arrière. L'auteur va commencer par établir un contraste par ce qui a pris place entre avant la venue de Jésus et sa venue, entre guillemets, entre hier et aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Le passage nous parle des jours qui sont les derniers. Vous savez, ces jours qui sont les derniers, ils ont débuté il y a 2000 ans lorsque Jésus est venu sur terre. Et ces jours qui sont les derniers s'achèveront lorsque Jésus reviendra. Il y a une promesse de victoire, mes amis. Vous savez, c'est un peu comme le D-Day et le jour de la victoire. Le D-Day, c'est le débarquement, c'est la promesse de la victoire. Et un an plus tard, en mai 45, c'était la victoire complète. On est dans cette période entre les deux. Mais dans cette période entre les deux, on a besoin du conseil de Dieu. On a besoin du conseil de Dieu. Et ce conseil, mes amis, se trouve en Jésus. Dans son message, dans ses réactions, dans ses actes, dans ses comportements, dans son sacrifice, dans sa vie donnée pour chacun d'entre nous. Comment vivre et affronter notre quotidien ? Comment vivre ces informations qui tombent à la télé ? Comment vivre toutes ces informations qu'on peut voir sur les réseaux, sur Internet ? Mes amis, en regardant à celui qui ne rendait pas le mal pour le mal. Tout à l'heure, Klaus, dans sa prière, a parlé d'incarner l'amour. C'est l'amour qui faisait la différence. C'est de regarder à celui qui était ému de compassion, remué dans ses entrailles, remué dans ses tripes, comme on dit. Et ça le poussait à bénir et à encourager. C'est regarder à celui qui pleurait sur la condition de ses contemporains. Vous savez, quand Jésus pleure en regardant Jérusalem. Est-ce qu'on pleure sur la situation de nos contemporains, sur ce qui est en train de prendre place ? C'est encore encourager à regarder à celui qui abordait chaque personne, chaque situation de manière individuelle. C'est à celui qui entrait en dialogue avec ceux qui ne pensaient pas comme lui. C'est regarder encore à celui qui nous invite à tendre l'autre joue, vous savez, la joue de la gifle de l'humiliation. À celui qui n'a pas, et je vais reprendre la vision de cette année, celui qui n'a pas hésité à se salir les mains pour que nous ayons les pieds propres. Vous savez, la notion de serviette que Matthieu a développée lors de notre célébration de rentrée. Celui qui n'a pas hésité à se salir les mains en donnant sa vie, en subissant les coups, pour que nous puissions avoir des cœurs propres ce matin, pour que nous puissions être au bénéfice de son amour. Il y a une église qui est là ce matin ? Alors peut-être que nous sommes bouleversés dans nos sentiments face à tout ce qui se voit. Peut-être que juste la vue de cette semaine qui s'est écoulée, il y a juste un cri qui monte du cœur, « Seigneur, c'est pas juste. » Bah ouais, c'est pas juste. Mais mes amis, notre vie s'inscrit dans un plan bien plus grand que nos propres vies. Elle s'inscrit dans une histoire bien plus large, un plan qui nous dépasse, un plan qui est défini par celui qui veut nous parler. Et celui qui veut nous parler, nous dit ce passage, c'est pas n'importe qui. C'est Jésus. Alors, est-ce que regarder à Jésus, son comportement, ses attitudes, ses relations avec les gens, ça nous dit, du coup, il faut juste lire le Nouveau Testament, puis il faut arrêter l'Ancien? Bien sûr que non. C'est pas ça dont il est question ici. Par contre, ça veut dire que nous avons besoin de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la révélation de Jésus. Et c'est tout l'enjeu de cette lettre aux Hébreux. Regardez ce que l'auteur dira dans Hébreux 10, verset 1. « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. » Paul dira aussi des choses dans ce sens-là, dans Colossiens 2, 16, 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. » Les auteurs du Nouveau Testament expliquent que l'Ancien Testament et ses prescriptions n'étaient que des ombres, des ébauches, une esquisse de la réalité qui allait prendre place dans la personne de Jésus. Dans son ouvrage « De l'esquisse à la réalité », titre qui a inspiré notre série, ouvrage que vous pouvez vous procurer à l'espace Bible et ouvrage à l'issue de cette célébration, Roy Essien va dire la chose suivante. L'auteur écrit à tous ses groupes pour leur expliquer que ces pratiques, bien que divinement ordonnées, n'étaient que des ombres et pas la réalité elle-même. Elles n'ont d'ailleurs jamais été destinées à être autre chose. On pourrait comparer ça à une recette de cuisine. Avoir une recette sans jamais cuisiner, ça ne nourrit personne. Avoir une recette sans cuisiner, ça nourrit personne. Mais quand tu cuisines le plat, tu passes du rêve à la réalité. Et une fois que tu as le plat en face de toi, j'ai pas envie de manger la recette en papier là. Ou manger mon iPad où il y a Marmiton et tout le reste là. En fait, ce qui était authentique mais partiel est devenu complet et réel en Jésus. C'est donc ici une invitation par l'auteur qui parlait aux croyants de persévérer dans la foi chrétienne. Et c'est cet appel-là qui nous est adressé. Quelqu'un a dit que l'Ancien Testament est l'Évangile en bourgeon. Le Nouveau Testament est l'Évangile en fleur. Les deux sont importants. Il n'y a pas de fleur sans bourgeon. Mais mes amis, le but du bourgeon, c'est de devenir une fleur. Parce que c'est la fleur qui va porter les semences de la vie. C'est la fleur qui va faire la différence. Les préceptes de l'Ancien Testament pointaient vers le Christ et son opération de sauvetage pour l'humanité. Le théologien Don Carson, expert en Nouveau Testament, dira que se fier à nouveau aux structures de l'Ancienne Alliance, ce serait non seulement oublier qu'elles annonçaient le Christ au fil des siècles, de l'histoire de la rédemption, donc la rédemption c'est le rachat que Dieu fait en nous sauvant, mais aussi leur attribuer une efficacité rédemptrice, donc de salut, qu'elles n'ont jamais possédée. Tout en dévalorisant la signification unique du sacrifice de Christ. Certains veulent être experts de l'Ancien Testament et enseigner aux disciples de Jésus des préceptes et des pratiques dans lesquelles le Nouveau Testament fait silence, comme si l'Évangile n'était pas suffisant. Mes amis, notre lecture de l'Ancien Testament ne doit pas être géopolitique ou apocalyptique, elle doit être christocentrique. Elle ne doit pas être apocalyptique ou géopolitique, mais christocentrique, pointée sur Jésus. C'est intéressant le don spirituel qui est arrivé ce matin, parce que, je ne sais pas pour vous, mais vous savez qu'on a loupé le retour de Jésus. C'était le 23 ou le 24 septembre 2025, il y a 4 jours. Aux États-Unis, plein d'évangéliques sur les réseaux sociaux ont commencé à partager, il me semble, un pasteur sud-africain qui avait annoncé qu'à la fête là, qui prenait place dans le monde judaïque, c'était là que Jésus allait revenir. Alors que le Nouveau Testament nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ils se sont appuyés sur des choses qui pointent vers une réalité plus importante dans le Nouveau, mais ils en ont fait toute une théologie pour déboucher finalement, on est là. Et ce qui est marrant sur les réseaux sociaux, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils disent y a un problème dans leur foi en ce moment, ou comment ça se passe? Quand tu écoutes les commentaires, les gens ils disent mais c'est des rigolos. Et malheureusement, dans nos milieux, ça a circulé pendant des années, puis ça revient. Tout ce que c'est, mes amis, c'est un contre-témoignage. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme essayer de déchiffrer comme ça l'Ancien Testament sans le lire à la lumière du Nouveau. C'est un peu comme quand on essaye de monter un meuble d'une marque suédoise. Des fois, moi, je regarde le plan comme ça, puis la flèche, je ne sais pas trop si elle veut dire devant ou derrière. Alors, on essaie, on tâtonne. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, une fois qu'on a réussi à faire le meuble, bon, il reste des pièces, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont là. Et là, on comprend le plan. On dit, ah oui, la flèche, elle ne faisait pas comme ça, elle faisait comme ça. Il y a un danger, mes amis. Une des règles en théologie, c'est d'interpréter des textes difficiles à la lumière des textes clairs. D'interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, parce que l'Ancien pointe vers Jésus. Attention à renoncer à l'exclusivité du Christ pour chercher une voie plus profonde. Un christianisme assaisonné de préceptes et de rites dépassés. Mes amis, Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu. Il est le début, le milieu et la fin de tout ce que Dieu veut nous révéler. Amen. Et on n'a pas besoin de regarder à autre chose que le Dieu annoncé dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau. Voici ce que nous avons besoin. Parce que Jésus n'est pas simplement le dernier mot de Dieu, il est le Dieu incarné, le Dieu fait en chair. Et c'est mon deuxième point ce matin, Jésus est le Dieu incarné. Donc poursuit la lecture, Hébreux 1, 2 à 3. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est important d'écouter Jésus non seulement parce qu'il est le dernier mot de Dieu, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est maintenant ce que l'auteur de cette épître va démontrer. Et voici quelques raisons qu'il va avancer. D'abord, il l'appelle Fils de Dieu. On ne parle pas d'un simple homme appelé par Dieu, comme il a dit autrefois, il a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Mais là, il parle par celui qui est son extension, et on va le voir juste après. Il explique qu'il est l'héritier, et les commentateurs disent qu'un fils premier-né occupait une place particulière dans le cœur de son père, partageait l'autorité de celui-ci et héritait de la plus grande partie de ses biens. Un héritier devenait le titre de propriété de celui qu'il avait choisi pour être l'héritier. Il a le titre de propriété. Mes amis, nous appartenons à Jésus. Pour toutes celles et ceux qui placent leur foi en lui. Le texte continue en disant que c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui le soutient. Non seulement il l'a créé, mais c'est lui qui intervient aujourd'hui pour que le chaos ne soit pas pire. Il retient l'arrivée du mal. Et il permet que le soleil se lève toujours le matin. Qu'il se couche le soir. Et même s'il y a des moments dramatiques, il est celui qui soutient et qui empêche la prolifération du mal complet. On voit dans ce passage que le Fils est à l'œuvre, associé à l'œuvre de création. Mes amis, créer la terre, créer le monde, créer l'univers, c'est un acte divin. Donc si on se pose la question de savoir si Jésus est Dieu, il est celui qui a participé à l'œuvre de création avec le Père. Le texte poursuit en disant qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Le grec ici, c'est apogasma, pour parler de reflet, qui nous parle du rayonnement lumineux. Jésus est la continuité de la source lumineuse qui émane du Père. Le théologien Warren Wiersbe, dans son commentaire « Soyez confiants », toute une série de commentaires pratiques sur le Nouveau Testament, dit la chose suivante, « Le Christ est au Père, ce que les rayons de soleil sont au soleil. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Tout comme il est impossible de séparer les rayons du soleil de sa source, de même il est impossible de séparer la gloire du Christ de la nature de Dieu. » Mes amis, à partir du moment où tu as un soleil, tu as des rayons. Tu as des rayons. Il n'y a pas de rayon sans soleil et pas de soleil sans rayon. Dieu existe de toute éternité et il en est de même pour le Fils. Il est le rayonnement du Père. De toute éternité, Jésus est Dieu. Le texte précise qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Ici, c'est le terme grec doxa qui fait écho à ce qu'on appelle la Shekinah dans l'Ancien Testament. Ça parle à quelqu'un ? Vous savez, la Shekinah, c'était la présence de Dieu dans le tabernacle ou dans le temple. Dans le tabernacle, c'était cette tente portative où lorsque le peuple d'Israël évoluait, Dieu venait avec eux au travers du tabernacle. C'était la présence de Dieu qui accompagnait le peuple dans ses pérégrinations. Et à plus tard, une fois que le temple a été constitué, où ils se sont installés en terre d'Israël, la présence de Dieu était dans le temple. Ce texte nous dit que Jésus est la Shekinah de Dieu, la doxa de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu manifestée et à nos côtés ce matin. Amen. Jésus est la présence de Dieu manifestée aux hommes. Il est l'expression de sa personne. Quand on voit Jésus, on voit Dieu et on voit ce qui est sur son cœur. Tu veux savoir comment Dieu pense ? Tu veux savoir comment Dieu agit ? Regarde à Jésus. Jésus est l'expression du cœur de Dieu. Warren Wiersbe dira « Jésus est la représentation exacte de la substance même de Dieu ». La suite du chapitre va démontrer combien l'auteur de l'Épître aux Hébreux il sait de quoi il parle et qu'il maîtrise l'Ancien Testament. Et surtout la règle d'interprétation qu'on a dit tout à l'heure, de toujours interpréter un texte de l'Ancien à la lumière du Nouveau. Regardez ce qu'il va dire. Les auteurs du Nouveau Testament interprètent les promesses de l'Ancien Testament à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux, elle va jouer un rôle important, crucial, parce qu'elle enseigne à tous les disciples de Jésus comment lire l'Ancien Testament en relation avec le Christ. À 7 reprises dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'auteur va citer l'Ancien Testament pour souligner qu'il pointe vers Jésus et sa divinité. Moi, je vais m'arrêter que sur un seul verset parce qu'on n'a pas le temps de tout couvrir. Mais le verset 8, par exemple, nous dit la chose suivante. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Ici, c'est une citation du psaume 45. C'était un chant d'amour, le psaume 45, en faveur du roi d'Israël et du trône de David. Et dans ce psaume 45, le psaume commence en disant qu'il est le plus beau des fils d'hommes, au verset 1. Et au verset 8, le texte lui dit « Ton trône, ô Dieu, un règne sans fin. » Le Sauveur n'est pas un quelconque roi, il est bien 100% homme, parce qu'il est le plus beau des fils des hommes, mais il est appelé Dieu avec un règne qui ne s'arrête pas. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Alors mes amis, si notre lettre commence par nous révéler que Dieu parle aujourd'hui par le Fils, regardez combien, à la fin de l'Épître aux Hébreux, comment elle termine son Épître. Hébreux 12, 25, « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. » En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Mes amis, si Jésus est Dieu, alors nous ferions bien attention d'écouter, de prendre en considération ce qu'il veut nous communiquer et ses avertissements. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant dans mon troisième point et le dernier. Ne négligeons pas le salut de Dieu. On va dans le chapitre 2, les versets 1 à 4, on nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges, dans le premier chapitre, a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, il parle des disciples et des apôtres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a construit tout son enseignement, et ce qu'on verra dans les prochaines semaines, en présentant la supériorité de Jésus, qu'on va voir, mais à chaque fois c'est accompagné d'un avertissement pour chacun des points que l'auteur va évoquer. L'auteur ici veut sensibiliser son peuple à prêter attention, à ne pas perdre de vue l'Évangile. Alors si ces paroles, elles sont dures, mes amis, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il ne souhaite pas que nous partions dans le décor. C'est parce que Dieu nous aime. L'expression ici employée à notre perte, elle fait écho à partir en dérive. Et c'est peut-être ce que vous avez dans des plus vieilles versions. Comme vous le savez, je suis pêcheur de poissons et de carnassiers. Et notamment, je pêche en embarcation dont j'ai fait l'acquisition cette année avec mon cher collègue et ami Mathieu Thoman. On a un bateau. Et là, il y a quelques semaines, je suis parti en vacances chez mon frère dans le Cantal. Et on a décidé d'aller à la pêche, donc sur des lacs de barrage, donc des lacs assez profonds. Puis on a fixé un cap. On a fixé un cap en disant, on va se tenir au-dessus des boules de poissons pour essayer de les attraper. Alors on a pour ça un petit éco-sondeur qui nous permet de voir ce qui se passe sous l'eau, qui sonde un petit peu le fond de l'eau. Et puis c'est là où ça nous permet de dire, ok, les poissons sont là, parce que des fois dans l'eau, il n'y a rien du tout sur des grandes distances. Donc on suit notre cap. Seulement à un moment, hop, on reste accroché au fond. Et là, on tire, ça casse. Et pendant ce temps-là, ben, il faut réparer. Il faut réparer le fil. On commence à remonter, on baisse la tête, on s'affaire à notre réparation. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau, il a dérivé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'encre. On n'avait pas d'encre. Donc comme on n'était plus fixé sur le cap, tout doucement, on a dérivé. Et ce qui est intéressant et sur l'eau, c'est que des fois, tu as de l'eau à perte de vue, tu ne te rends pas compte que tu as bougé. Tu es là, bah, y a toujours de l'eau autour de toi, les maisons sont à peu près au même endroit, puis tu as l'impression d'être au même endroit. Sauf que tu n'es plus au même endroit. Parce que tu as perdu le cap. Quand tu es plus concentré, le vent et les vagues t'embarquent tranquillement, mais sûrement. Et c'est ce à quoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait écho ici. Détourner nos regards de Jésus, de celui qui est notre ancre solide. Détourner nos regards de l'expression du cœur de Dieu. Quand je vois Jésus, je vois Dieu. Quand je vois Jésus agir, réagir, je vois Dieu. Détourner mes regards de ça, ça c'est un risque de dériver et de nous mettre en danger. La commentaire de la Bible NIV dit que l'image de la dérive pourrait signifier des objets qui glissent, comme une bague qui glisse du doigt ou un navire à la dérive, manquant le port où il devait entrer à cause des forts courants. Ici, le danger, c'est de partir en dérive si on perd l'essence du message de l'Évangile. L'objectif de l'auteur ici n'est pas de nous faire peur, mais de nous avertir du danger qui nous guette, de nous éloigner de Jésus. Alors, pour appeler le peuple à se ressaisir, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire un comparatif entre ceux qui se sont perdus sous l'ancienne alliance, qui n'ont pas écouté les prophètes et les anges, qui se sont perdus, et dit « si eux se sont perdus ». Alors vous, votre situation elle est encore plus grave parce que ce n'est pas des anges ou des prophètes qui ont parlé, c'est le Fils de Dieu. Et si tu négliges la parole du Fils de Dieu, alors tu es vraiment plus en danger qu'eux. C'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire par ce contraste dans ce chapitre. Eux qui ont subi la punition parce qu'ils n'ont pas écouté les anges et les prophètes, à combien plus forte raison nous devons être vigilants à l'avertissement de Dieu pour notre génération. Le terme ici, négligé, il est super fort. Il dit « ceux qui se soucient si peu » de la parole du salut qui vont la négliger ne trouveront aucun moyen d'échapper au châtiment qu'ils méritent. En fait, on est invité, mes amis, à ne pas se conformer à la mentalité présente, à la mentalité ambiante et à rester ancré sur ce qui anime le cœur de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, il y a des gens qui se font assassiner pour leurs idées. Et c'est de la folie. Personne ne mérite de mourir pour avoir défendu une opinion. Personne ne mérite un lynchage médiatique parce que nous prenons des valeurs, incarnons des valeurs différentes au sujet de l'amour, de la vie et de la famille. Alors tout ça, ça peut nous mettre la rage, ça peut nous retourner le sentiment d'injustice. Mais si nous, on ne fait pas attention à veiller au filtre de nos ressentis, à filtrer nos ressentis, pardon, à la lumière du cœur de Dieu, nous risquons de déraper. Si nous ne nous renouvelons pas en Dieu, ce sont nos frustrations, notre colère, la haine qui risquent de prendre le dessus lorsque nous serons sous pression. Le danger pour nous sera alors de diaboliser, dénigrer ou rabaisser les autres êtres humains qui ne pensent pas comme nous sur tel ou tel sujet. Et ce matin, j'aimerais dresser un avertissement. Attention au nationalisme chrétien qui est en train de monter dans notre monde. Je vois des évangéliques parler, on n'aurait jamais vu ça il y a 30 ou 40 ans dans nos milieux évangéliques. Il y a un nationalisme chrétien qui est en train de monter. Et celui qui vous parle, il a servi la France pendant plus de 10 ans. Il y a un danger au nationalisme chrétien. Mes amis, il n'y a aucune terre chrétienne à défendre. Il n'y a pas de terre chrétienne. Il y a bien eu l'ère de la chrétienté qui s'est imposée partout. Mais notre pays n'est pas chrétien. Notre pays, il a besoin de Jésus. Il n'y a pas de terre chrétienne à défendre. Nos nations occidentales ne sont pas chrétiennes. Elles ont besoin de la grâce de Jésus. Alors oui, certains vont surfer sur nos idées chrétiennes pour nous amener quelque part. Mais fondamentalement, ils ne sont pas disciples de Jésus. Ils ont besoin de sa grâce. Mes amis, on ne peut pas non plus utiliser les textes de l'Ancien Testament pour valider ou justifier une purge sur un peuple, quel qu'il soit. Il n'y a pas, on n'a pas le droit de purger personne sauf ce peuple-là parce qu'il nous dérange à l'endroit où il est placé. On ne peut pas utiliser l'Ancien Testament pour justifier la purge. Peu importe le peuple. Je m'inquiète de discours chrétiens sur les réseaux, enfermant des gens dans des catégories. Vous savez, il y a des mots clés en ce moment. Je vais vous en donner quelques-uns. Migrants, les woke, les fachos, les palestiniens, les sionistes. Tous ces types de mots-là sont là pour enfermer des gens dans des catégories et pouvoir faire dire ce qu'on veut après parce que de toute façon, lui, il n'est que comme ça, donc ce n'est pas vraiment un être humain. Ou lui, elle, elle pense comme ça, c'est pas vraiment, elle est dans l'autre camp, donc de toute façon, ce n'est pas grave si je l'insulte. Mes amis, ces discours démagogiques où on enferme des gens dans des stéréotypes, c'est, ça sert juste les plans de Satan. Je sais que ce n'est pas drôle à entendre parce que tous on l'a fait, peut-être moi le premier. Mais on est en train de servir les plans de Satan. Toutes ces catégories-là sont là pour ériger des murs et exclure des gens, exclure des humains. Je rappelle ce matin que Dieu nous a tous créés à son image. Alors le problème, c'est que oui, le péché, il a dénaturé, il a déformé cette image de Dieu, mais chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Et chaque image de Dieu, Dieu lui accorde de la valeur. Et cette valeur, elle est déterminée par le prix que Jésus a été prêt à payer pour que chacun d'entre nous puissions être sauvés ce matin. La valeur d'une chose est déterminée parce qu'on est prêt à payer, et Jésus a été prêt à payer le prix pour chaque être humain, pour leur permettre d'être sauvés, pour leur permettre que cette image soit restaurée, cette image de Dieu restaurée en eux. Mes amis, il n'y a pas de catégorie de gens inéligibles au salut offert en Jésus. Il n'y a pas de catégorie de gens qui n'ont, eux, pas le droit à une terre, ni à ce qu'on on puisse combler leurs besoins fondamentaux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à ne pas négliger le message de la grâce. Il dit ne pas négliger le salut que nous devons incarner dans nos vies et dans nos relations pour toutes celles et ceux qui nous entourent et là où Dieu nous a placés, même à Strasbourg en 2025. Quel est le regard que je pose sur celles et ceux qui ne pensent pas comme moi? Est-ce que je les vois comme des ennemis? Est-ce que je les vois comme des adversaires? Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion, splagitzomai en grec, remué à l'intérieur, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis sans berger. Est-ce que je vois des adversaires, des ennemis, ou des brebis égarées? Des brebis qui ont besoin de retrouver la maison du Père. Pasteur Martin Luther King, le pasteur baptiste qui s'est battu pour la cause noire, a dit la chose suivante, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Et c'est ce que Klaus disait dans sa prière. Ça fait deux fois que je te cite ce matin, Klaus. Mes amis, le royaume de Dieu dont nous sommes les ambassadeurs, les représentants, n'est pas un royaume qui s'impose par la force, qui va obtenir une adhésion forcée. Mais c'est un royaume qui transforme les gens de l'intérieur par l'amour et qui obtient des adhésions de cœur. Dieu pourrait forcer tout le monde à plier le genou ce matin. Il obtiendrait une contrainte forcée parce qu'on ne fait pas le poids face à Dieu. Même les anciens gendarmes, on n'est pas assez costaud. On ne fait pas le poids. Alors oui, on pourrait abdiquer, mais notre cœur ne serait pas gagné parce qu'à l'intérieur de nous, on dirait « purée, si un jour il y a moyen de... » Alors, on prendra... Non. C'est un amour qui vient gagner les cœurs et qui vient gagner l'adhésion. Et c'est à ça que Dieu nous appelle en tant qu'Église. C'est notre mandat, c'est notre appel. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que, du coup, on n'a pas le droit d'exprimer notre opinion, on doit s'écraser, on n'a pas le droit de défendre nos droits? Pas du tout. Dieu a mis en place les autorités, la justice, pour protéger le droit des uns et des autres. Alors, ce n'est pas parfait, mais il y a quand même ça, surtout dans notre pays. Les lois sont là pour protéger les victimes et faire cesser les auteurs de crimes, de délits, de violences sous toutes ces formes, et Dieu sait qu'il y en a. Mes amis, nous avons le droit de nous défendre face à la barbarie, en requérant les personnes compétentes, l'armée, etc., lorsqu'il y a des actes barbares qui sont commis. Mais le danger ce matin que je veux pointer, c'est celui de nos cœurs, de tomber dans la haine, de cataloguer, de stigmatiser, et d'enfermer des personnes sans leur proposer une porte d'espoir. Nous avons besoin, mes amis, d'être renouvelés dans le regard de Dieu, dans le regard que nous portons sur les autres pour avoir le regard de Jésus. Ma prière ce matin, alors que l'équipe peut s'approcher, c'est que Dieu puisse nous appliquer son collyre, que nous puissions prendre du temps avec Dieu au quotidien. Parce que, mes amis, si c'est juste les chaînes d'information qui alimentent votre compréhension de ce qui est en train de prendre place dans le monde, je vous garantis que la haine, la colère, l'injustice et tous ces sentiments-là, ils vont vraiment vous habiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas couper et regarder ce qui se passe, mais il faut regarder ce qui se passe à la lumière de la présence de Dieu et de se tenir sur nos genoux. Dieu, il attend une église partout dans le monde, pas qui est revendicatrice, mais une église qui se tient sur ses genoux et qui pleure pour un monde qui est perdu, qui pleure pour des gens qui sont maltraités un peu partout sur la planète. Une église qui pleure pour des gens qui s'enfoncent dans le péché, qui n'ont plus de point de repère. On a besoin, mes amis, de nous laisser guider par Jésus qui est la révélation du cœur de Dieu et qui est encore le plan de sauvetage pour l'humanité jusqu'à ce que Jésus revienne. Rien n'a changé. Les plans sont toujours les mêmes. Dans cette attente entre la première venue et la deuxième venue, nous avons besoin de venir nous alimenter à celui, à regarder à celui qui regarde les foules languissantes et abattues, qui regarde les êtres humains, même avec leurs pires péchés, comme des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui regarde Saul de Tarse qui persécutait l'Église, comme celui qui allait devenir l'apôtre Paul, qui regardait les persécuteurs comme quelqu'un qui a besoin de la grâce de Jésus. Voici le regard et voici le programme encore, cette année. Mes amis, nous sommes peut-être la génération d'avant le retour de Jésus. Que nous soyons à la hauteur de l'événement. Et ça ne se fera pas sans être équipé, dirigé par le Saint-Esprit. Pendant que la musique va continuer, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin pour une église qui dit « J'ai besoin d'être renouvelé en toi ce matin ». Est-ce qu'on désire, est-ce qu'on veut, à l'église de l'épi ce matin, être cette église qui se salit les mains pour que les pieds soient propres dans notre génération? Est-ce que nous désirons être cette génération de disciples qui se tiennent entre les morts et les vivants, portant la torche et la lumière de la grâce de Jésus, qui veut encore faire des différences? Est-ce qu'on veut être la voix des sans-voix, des faibles et des opprimés? Parce que c'est le message du Nouveau Testament. Est-ce qu'on veut être des catalyseurs de paix là où il y a la guerre, là où il y a la haine? Est-ce qu'on veut être cette main qui relève là où la personne est au sol et est à terre? Est-ce qu'on veut être porteur d'un message d'espoir là où il n'y en a plus? Est-ce qu'on veut être des bâtisseurs de ponts là où d'autres veulent ériger des murs? Je prie, mes amis, pour que nous soyons ces disciples à la hauteur du défi. Je veux prier pour nos cœurs ce matin en vous laissant cette parole de John Stott, qui est là encore un théologien, mais qui dit « Se détourner de l'évangile de la grâce de Dieu revient à se détourner du Dieu de grâce. » On ne peut pas dire « Je crois en Dieu, mais je choisis ce qui m'intéresse dans qui est Dieu. » Je ne peux pas dire « Oui, moi je crois en Dieu, par contre, le Dieu de l'évangile, là, il ne m'intéresse pas. » Rejeter la grâce de Dieu, c'est rejeter le Dieu de la grâce. Seigneur, je te prie pour nos cœurs ce matin, Père. On a pu être secoués, bouleversés par tout ce qui prend place, Seigneur, et puis se laisser embarquer aussi sur les réseaux, sur tout ce qu'on peut voir, ce qui est diffusé, Seigneur, nous embarquer. Et laisser quelque part nos cœurs commencer à être contaminés par une petite voix qui veut nous emmener à de la haine, à de la revendication, et puis vas-y, maintenant, on prend place, et puis on ne se laisse plus marcher dessus. Alors que, Seigneur, toi, tes regards sont sur la foule languissante et abattue. Seigneur, on te prie pour un collier de ton esprit encore dans nos regards. C'est vrai, Seigneur, les ténèbres sont vraiment en train de s'épaissir. Seigneur, en tant qu'église locale, là où tu nous as placés, nous voulons être à la hauteur de l'événement. On sait que ça ne va pas être par nos propres forces. Alors c'est pourquoi ce matin, on vient à tes pieds, Jésus, pour être renouvelé, pour être équipé, Seigneur, pour voir comme toi tu vois, pas voir des ennemis ou des adversaires, mais des brebis sans berger. Seigneur, j'ai besoin de ça pour ma propre vie. Merci parce que ta parole, elle est encore là pour nous interpeller. Ta parole, elle est là pour se faire sentir bien des gens qui se sentent mal. Et puis des fois, venir nous chatouiller, nous faire sentir mal sur certains aspects de nos vies, là où nous, on se croit bien. Seigneur, que ta parole puisse être encore cette épée à double tranchant dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, on veut venir à tes pieds encore, pour notre génération. On veut être des porteurs, des vecteurs de ta paix, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés sans ressources, tu as promis d'envoyer le Saint-Esprit, Seigneur. Avec tous les dons les meilleurs, les dons de la grâce, les dons qui font une différence, les dons qui apportent une plus-value dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Seigneur, viens nous équiper, viens nous remplir de toi, Éternel. Ô Saint-Esprit, je te prie pour un souffle encore nouveau ce matin au milieu de nous. Seigneur, pardon si on s'est laissé embarquer dans nos pensées, dans nos idées, peut-être même dans les mots qu'on a dit ou qu'on a écrit sur les réseaux. Seigneur, je te prie pour une œuvre, un souffle de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions être tes pieds, tes mains et ta bouche en action dans ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, en tant qu'Église, on veut te dire oui ce matin. Sers-toi de nous. On ne veut pas perdre, Seigneur, que tu es le début, le milieu et la fin de toutes choses, Jésus. Seigneur, on veut s'approcher de toi parce qu'on a besoin de toi. À toi la puissance et la louange, et que ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen. Amen.
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada.
jamais. Jamais.
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais.
Jamais. Jamais.
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais,
jamais, jamais. C'est notre foi, notre déclaration. Jamais, peu importe le monde, il ne faillira.
Il ne faillira jamais.
Nous le croyons.
Il ne faillira,
il ne faillira jamais.
Il ne faillira jamais.
Il ne faillira.
Il ne faillira jamais,
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 jamais.
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais,
jamais.
Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans répit, mais pour moi, il t'est. Oh, l'amour envers son extravagant, infini.
Oh, l'amour.
Oh, l'amour envers son extravagant, infini.
L'amour est plus fort que la mort.
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Oh,
ensemble.
Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu, sans je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout.
C'est l'Église qui s'adresse à son Créateur. Prends mon âme,
prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout.
Mon cœur, Seigneur, toi l'ultime révélation.
Mon cœur est à toi, tout à toi.
cœur, Seigneur, est à toi.
Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Notre âme a besoin de l'entendre, notre confession. Mon cœur est à toi.
Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Ma vie, mon être.
Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Oui, Seigneur, en Église ce matin, nous voulons pointer vers celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Jésus-Christ, Dieu fait homme, Emmanuel, l'Esprit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit et témoigne à l'Église. Que nous sommes enfants de Dieu, rachetés par le même Seigneur, le même Sauveur. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et que l'Esprit de Dieu grave encore dans nos cœurs encore plus cette parole de Jésus qui dit « Je suis moi Jésus ». Dites-le avec moi, le chemin, la vérité et la vie. Alors à Jésus ce matin, toute la gloire, est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire à ce roi des rois ? Vous pouvez prendre place un instant. Et vous qui êtes en ligne aussi, restez, restez. Il y a un message important pour vous maintenant. Un message important pour la communauté. Je suis très heureux de pouvoir le faire, ce message. Ça fait longtemps que j'attendais de vous faire ce message. Et rien de mieux que de se remettre dans une bonne disposition spirituelle, de savoir que Jésus, c'est le Seigneur. C'est le dernier mot pour pouvoir se dire, Seigneur, tu continues à bâtir ton Église. Tu continues à bâtir ton Église et tu n'as pas peur de bâtir avec des pierres qui, parfois, malheureusement, sont ce qu'elles sont. Mais bon, Jésus est un bon tailleur de pierres. Vous avez vu la transition avec le projet immobilier, comme c'est intéressant ? Merci beaucoup, merci, merci, merci. Aujourd'hui, une annonce très importante pour vous, les amis de l'EPI qui êtes en ligne, pour nous ici, la communauté. Juste avant que vous passiez à autre chose, à l'apéro ou autre, juste être là, présent avec nous et d'être bien concentré pour ce qui suit. Je voudrais d'abord nous faire un petit résumé de là où on en est. En juin, on vous a présenté le budget travaux détaillés. Et on sait maintenant que pour la transformation de ce bâtiment, pour qu'il soit plus fonctionnel, on sait maintenant que c'est 7,9 millions d'euros. En juin, on vous a présenté une projection 3D de ce que ce lieu peut être repensé, rénové. On sait aussi que le projet, il est techniquement viable. On sait maintenant que c'est possible. On est en train de déposer un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse poser notre autorisation, notre demande d'autorisation de travaux. Et on aura alors 3 ans devant nous pour les commencer. Donc on sait, on reste. Et en juin, je vous ai quitté en vous disant, maintenant, on entre dans une phase importante qui est le plan de, dites-le, financement. Exactement. C'est l'objet de mon intervention ce matin, mais juste avant, vous dire que On Reste évolue. Notre bâtiment n'a jamais été pour nous le cœur du projet de l'Église. Ce n'est pas le projet. Par contre, c'est un magnifique outil que les générations d'avant nous ont légué et qu'on veut continuer à utiliser pour être une bénédiction pour la ville de Strasbourg. Amen. On Reste, c'est le lancement du projet de rénovation. On Reste n'est pas la finalité, pas du tout. On Reste, c'était rassurant de le savoir pour nous. On sait où on va. Ça nous a apporté des solutions dans l'incertitude après 15 années de recherche, de réflexion, de travail. Et les amis, 15 ans, c'est long pour ceux qui sont là depuis le début. Ben regardez-vous, 15 ans avant, 15 ans après, c'est long, 15 ans. Alors on s'embellit avec l'âge. Mais le bâtiment s'embellit pas toujours avec l'âge non plus. Et 15 ans, c'est long. Aujourd'hui, nos locaux, notre vie d'église, eh ben maintenant on peut se dire, ok, on reste, mais on peut aller plus loin maintenant. On peut aller plus loin sur l'ouverture aux autres, on peut aller plus loin sur l'ouverture à nos proches, aux habitants, aux voisins. Et du coup, On Reste devient EPI, espace de rencontre. Espace de rencontre. Notre cœur a toujours été, depuis ce petit groupe de maisons dans une famille, où l'église a démarré jusqu'à maintenant, ça a toujours été d'être un espace de rencontre et être des espaces où on peut vivre la vie. D'édifier les chrétiens. De bénir les personnes qui sont en recherche spirituelle, les personnes en questionnement sur la foi, sur la vie. Que ce bâtiment puisse être aussi une source de bénédiction pour les relations avec les gens qui viennent ici. Alors comment continuer à être une église qui est là comme un lieu de vie? Eh bien, c'est simple, c'est en favorisant des moments de qualité, des espaces où l'on peut rencontrer Dieu, on peut croire, on peut être au contact de la Bible, on peut être au contact de sa parole, on peut être là à se rencontrer les uns les autres pour s'encourager dans la foi, un endroit de vie où on peut accompagner dans la naissance, dans un mariage, dans une épreuve de la vie, dans l'enterrement, d'entourer les familles dans des moments de joie, dans des moments de peine. Et il n'y a pas plus que quelques semaines, quelqu'un par les réseaux sociaux, par les sites internet est venu dans ce lieu et nous avons été un point de contact pour lui, pour s'approcher de Jésus. La bonne nouvelle, vous savez quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il est dans les parcours baptême. Et il va se faire baptiser dans quelques semaines. Des espaces de rencontre. C'est ce qu'on fait depuis toujours et on veut continuer de bâtir pour les générations qui sont présentes là, mais qui sont futures aussi. On veut bâtir pour la ville, et on veut bâtir pour les villages, et on veut bâtir pour les alentours. On veut vraiment être une source de bénédiction. Alors comme je vous l'ai dit, on est en plein dans le plan de financement. Aujourd'hui, tout le monde sait compter et tout le monde est conscient qu'il nous manque des fonds pour lancer le projet. Ce n'est pas une nouvelle. On est devant un temps maintenant qui est dédié, un temps qui jusqu'ici a été bien investi pour trouver des fonds, un temps qui a été bien engagé. Et le temps nous rappelle qu'en juin 2024, nous avions un financement possible de 3,3 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2025, avec les projections, nous en sommes à 6,1 millions envisageables pour pouvoir financer le projet. C'est-à-dire qu'en un an, on a pu envisager avec plus de 2,8 millions de plus qu'on avance dans le projet et qu'on est en train d'atteindre l'objectif. Mais bon, vous le savez, toute cette dynamique-là, elle est due aussi au fait qu'il y a une bonne dynamique financière sur les trois dernières années. Il y a eu des apports et un apport de 2,2 millions d'euros. Il y a des études qui ont été payées déjà, qui font partie du projet. Il y a une épargne qui est constituée depuis plusieurs années. Et à l'instant T, là, il y a cette bonne dynamique financière qui est pour nous. Mais il y a aussi à l'instant T, avec le travail de recherche, les discussions, les échanges pour trouver des solutions de financement avec les banques, avec les partenaires, on a la possibilité d'aller chercher 3,9 millions d'euros de financement, que ce soit par l'emprunt ou que ce soit par les subventions. Juste en un an. 3,3, et maintenant on peut aller à ça. Mais bon, moi je veux dire merci. J'ai dit beaucoup de fois, mais bon, je suis désolé. Je veux dire merci à toutes les personnes qui croient dans le projet, parce que cette vitalité, cette dynamique, toutes les personnes qui nous donnent du conseil, toutes les personnes qui se proposent pour trouver des solutions aussi, je voudrais vous dire merci. Pourquoi ? Parce que c'est pas simple, un projet comme ça, de préciser les choses, parce que dans ce moment du projet, tout est fluctuant. D'une semaine, d'un mois à l'autre, tout peut bouger. Alors oui, une bonne dynamique, oui, un travail de recherche avec les partenaires, financiers, mais merci aussi à toutes les personnes qui nous aident à préciser alors que tout est en train de fluctuer. Alors vous le voyez bien, Aujourd'hui, à l'état actuel, dans le prévisionnel, il nous manque 1,8 million. Ça veut dire que, concrètement, il nous reste 1,8 million à trouver pour lancer les travaux. Alors, on est bien avancé. Regardez-moi ça, par rapport à il y a 2 ans, c'est tellement encourageant. Alors, 1,8 million, ça peut correspondre à quoi? Ça peut correspondre à un toit sur notre tête. Ben oui, avoir une maison sans toit, ça serait un peu tristouné. Et 1,8 million, ça peut correspondre à ça. Un toit qui est solide, qui est fonctionnel, un toit qui est capable de supporter nos systèmes d'aération, nos systèmes de chauffage et de refroidissement. Et surtout un toit sans amiante. Ça correspond aussi à quoi? Ça correspond à l'équivalent de ce qui nous manque pour assurer la sécurité et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, de la petite enfance et de leurs parents dans l'espace qui est là-bas. Ça correspond à la manière de mettre en sécurité, en accessibilité, tout le public accueilli dans nos 4000 mètres carrés. Ça peut représenter cela. Alors la question, c'est comment on fait pour lever 1,8 million d'euros? Je suis heureux que vous vous êtes posé cette question parce que je me la suis posée aussi. Donc vraiment, on est alignés ce matin, c'est incroyable. Je suis très heureux, très heureux. Avec vous ce matin, de pouvoir lancer un lancement participatif, un financement participatif. Alors vous allez me dire, Mathieu, c'est quoi un financement participatif? Très simple. Un financement participatif, c'est un appel aux dons qui se fait sur une plateforme en ligne et qui va durer pour nous 75 jours. Ok? Il sera ouvert à qui? Il sera ouvert à tous les amis de l'EPI. Aux personnes, aux associations, aux entreprises qui sont motivées par notre projet ou qui sont aussi motivées par les valeurs que l'on porte. Et c'est la première étape de notre levée de fonds des 1,8 million d'euros. Et sans plus attendre, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble cette campagne de financement participatif. C'est une page en ligne sur Hello Asso qui vient soutenir énormément d'associations. Et vous arrivez sur cette belle plage avec ce beau bandeau, etc. Vous avez un petit texte et si vous descendez, vous avez une vidéo et voici la vidéo.
Aujourd'hui, l'église de l'EPI, c'est 800 participants réguliers qui vivent la vie de l'église ensemble et qui participent à des services solidaires. Et on a l'obligation de pouvoir répondre à des exigences des commissions de sécurité courant 2026. Je m'appelle Mathieu Thoman, je suis membre participant de la vie de l'église de l'EPI depuis plus de 10 ans maintenant et j'en suis le pasteur principal avec toute une équipe pastorale depuis environ 2 ans.
Bonjour, je m'appelle Michel Schneider, j'étais pasteur principal de 1999 à 2023 de l'église de l'EPI et aujourd'hui je fais partie de l'équipe pastorale.
Aujourd'hui l'église de l'EPI est munie d'un bâtiment de plus de 4000 mètres carrés. Un bâtiment de 4000 mètres carrés, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi un énorme défi pour que ce soit un lieu qui soit vraiment adapté, fonctionnel, réhabilité pour les besoins de la communauté. Pour nous, à l'église de l'EPI, cette notion de bâtiment, c'est vraiment un lieu de convergence déjà de tout ce qui peut se vivre même en dehors des cultes. Ça peut aller du mariage jusqu'à l'enterrement. C'est aussi un lieu où on vient concrètement apporter un soutien à différents types de personnes. On a tout un travail solidaire avec des distributions de colis alimentaires, des cours de français langue étrangère. On a accueilli dans ce lieu des tables rondes sur des sujets d'actualité. Une autre rencontre aussi qu'il y a eu, c'est les cultes en commun où plusieurs églises évangéliques se rassemblent dans un même lieu pour un temps dédié, pour vivre de l'unité ensemble.
Alors ça faisait quelques années que la commission de sécurité nous avait invités à faire des travaux et on a commencé donc à alimenter un fonds financier pour pouvoir faire face aux dépenses. On a fait faire au préalable toutes sortes d'études déjà pour qu'on puisse avoir des éléments concrets en main, que je puisse passer le relais. Et Mathieu a les épaules assez solides pour prendre le relais et mener à bien tout ce projet.
Pour pouvoir répondre aux exigences des commissions de sécurité, on se rend compte que là, ça va se compter en millions d'euros. Mais en même temps, une belle opportunité de continuer à être une église, non seulement qui accueille, mais au-delà de ça, qui continue à porter de la vie, qui continue à vraiment être force de proposition pour des projets positifs pour la ville de Strasbourg.
J'ai eu à cœur vraiment d'aller vers les élus, de partager le projet, et les élus ont très vite compris que ce lieu accueillait beaucoup de monde, que c'était un lieu qui devait vivre. Et je me souviens d'un moment précis où un élu était à côté de moi. À un moment donné, dans le déroulement du culte, il fallait se prendre la main, les autres, et cet élu me serrait la main Et à la fin, on échange quelques mots. Et l'élu de me dire, je viens pas seulement parce que je suis un représentant institutionnel, je viens d'abord pour moi et j'en ai besoin.
Depuis plusieurs années maintenant, la communauté s'est mobilisée et je veux vraiment les remercier pour cela. Et en même temps, on appelle tous les amis de l'EPI. Nous vous invitons à nous soutenir. Vous pouvez vous rendre sur notre site Hello Asso. Vous pouvez prier pour ce projet et vous pouvez être relais de cette campagne par le biais de vos réseaux sociaux pour que l'église de l'EPI continue d'être une communauté, un espace de rencontre pour plusieurs cultures, plusieurs générations présentes et futures.
Je vous avoue, j'avais pas noté si vous alliez applaudir ou pas, je savais pas comment vous alliez accueillir la vidéo. Et puis, espace de rencontre. Si on revient sur la plateforme où on va inviter nos amis, les proches qui ont les mêmes valeurs que nous à venir, à un moment donné, si vous remontez un tout petit peu, vous vous dites, mais attends Mathieu, il y a un truc là. On a déjà collecté tout ça alors qu'on le lance aujourd'hui. Alors c'est 56 313 euros, on voulait honorer toutes les personnes qui depuis le début de l'année font des dons dirigés spécifiquement pour le projet immobilier. Vous êtes là, parce que c'était important que vous soyez là. Est-ce qu'on peut remercier toutes ces personnes qui ont déjà lancé cette campagne? Ils se reconnaîtront, des donateurs réguliers, exceptionnels, ce qui fait qu'on commence la campagne vraiment avec tout cela. Concrètement Mathieu, c'est bien beau, espace de rencontre, etc. La plateforme elle est ouverte et tout ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on attend de l'église de l'EPI? Qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Et les jeunes, je vous en ai parlé, vous qui êtes présents ce matin, je vous en ai parlé hier soir quand on s'est connectés ensemble. Qu'est-ce qu'on invite la communauté à faire? À relayer, relayer et relayer. C'est ce qu'on vous demande en priorité. C'est de relayer un maximum cette campagne de l'église autour de vous. Être un relais de notre cœur, qui est continué d'être une église ouverte, une église présente, accueillante, solidaire, qui crée des espaces de rencontre. Alors dans la pratique, comment est-ce qu'on peut être un relais en tant qu'église pour toucher ce public-là? On a fini de la prédication, on a prié, on a répondu à Dieu, donc vous inquiétez pas pour ce que je vais vous demander, RP a fini. Vous pouvez sortir vos téléphones maintenant, vous qui avez des réseaux sociaux. Allez-y, je vous en prie, je vous donne 10 secondes pour le faire. Vous pouvez sortir vos téléphones et vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'église, où il y a un poste qui a été travaillé pour être partagé à vos amis autour de vous. Et pour celles et ceux qui sont faits avec les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur un réel, que ce soit sur Instagram, TikTok ou que ce soit sur Facebook par exemple. Vous allez sur la page de l'église. Si vous n'avez pas encore liké la page, allez-y parce qu'il va y avoir plein d'infos, plein de témoignages là-dessus, ça va être vraiment bien. Vous y allez et vous allez voir le premier réel qui a parlé. Vous cliquez dessus et vous pouvez le partager en story, vous pouvez le partager autour de vous. On se donne juste 30 secondes pour celles et ceux qui sont réseaux sociaux, vous qui êtes en ligne, de pouvoir se le faire, de découvrir un peu ça, parce que ça va nous permettre de titiller les algorithmes, parce qu'il y a des écrans qui font du mal et il y a des choses sur les écrans qui peuvent bénir et faire du bien aussi. La Bible dit que les territoires qu'on a délaissés sont devenus la proie des bêtes sauvages. Il faut pas faire la politique de la chaise vide, c'est pour ça qu'on va être présent aussi pour annoncer la lumière et des projets comme ça sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez y aller maintenant et commencer à partager cela. C'est très pratique. On aura aussi dans la communauté WhatsApp un petit message à votre destination. Il y a plus de 700 personnes connectées à notre communauté WhatsApp pour des annonces ou autres. Il va y avoir un message qui va arriver entre midi et deux aussi avec la possibilité de partager ce message autour de vous d'une manière pertinente et d'une manière, pertinente, quoi. Voilà. En résumé. Déjà, merci pour toute votre attention pour ce temps-là. En résumé, l'invitation pour nous, c'est prier, parce qu'on croit que Dieu peut pourvoir et nous permettre de continuer d'exister. Donner, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui donnent depuis tant d'années. On le dit dans la vidéo, on remercie. Et puis peut-être tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas encore participé à donner. Et tu te dis, mais c'est quand le bon moment? Dans l'histoire de l'EPI, c'est le moment de le faire. Donc c'est le moment d'aller sur cette plateforme, de dire « Ok, je participe, je donne ». Relayez par WhatsApp, il y a des mails qui vont arriver, il y a les réseaux sociaux, relayez en masse, comme disent nos amis québécois, de manière à ce qu'on vienne taquiner pour le bien d'une église qui veut faire du bien, voilà, notre campagne. Vous avez aussi un support papier, il a disparu dans ma présentation, mais il devait être quelque part, je devais vous le montrer, parce que Merci beaucoup, merci. Vous avez évidemment, pour celles et ceux qui sont plus dans le rapport un à un, autour d'un café, autour d'un BKOFA ou de partager du projet, vous avez des supports papier qui vous permettent de découvrir le projet, présenter le projet, aller à l'espace vie d'église, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment partager cela autour de vous. Donc priez, donnez, relayez, mais surtout priez et surtout relayez, ok ? On a un super support pour parler de notre Église, de notre projet, de son existence, de son cœur. Alors j'aimerais conclure avec celui avec qui je suis en binôme, Michel Schneider, et vous dire, et puis espace de rencontre, on n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour cette campagne ? Que Dieu pourvoie à tous nos besoins. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin au travers de la louange que tu es notre seule fondation. Que nous sommes ta famille, le royaume spirituel de Dieu sur terre. Merci pour le message qui nous rappelle que tu es le dernier mot, tu es l'ultime révélation. Il n'y a point d'autre révélation. Le Christ est venu, il a marché sur cette terre, il a annoncé la bonne nouvelle, il est mort crucifié, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Merci aussi parce que tu as été fidèle dans la vie de l'Épi depuis ces dizaines d'années. Aujourd'hui, nous en sommes là, Seigneur, on veut te remettre cette campagne. On veut te remettre nos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. Eh bien, on te fait connaître en tant qu'Église notre besoin. On te prie pour que cette campagne puisse toucher le cœur de plein de monde, pour nous aider à pouvoir continuer d'être une Église qui t'honore et qui bénit. Alors, merci, Seigneur, pour toutes ces choses et à toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si d'une manière... Ouais, si quelqu'un, il y avait quelqu'un qui voulait encourager en applaudissant, vous pouvez le faire, c'est maintenant... Moi, je prends. On a tellement besoin d'encouragement que je prends. Si d'une manière ou d'une autre, cette célébration vous a interpellé, il y a un espace vie d'église qui est maintenant disponible. Un espace écoute et prière qui est maintenant disponible sur ma gauche, sur votre droite. Donc si vous avez besoin de prière, d'être entouré, ça se passe sur ma gauche et votre droite. Il y a des personnes avec des badges. Prenez un temps de prière et soyez bénis.